soir, vous les croiserez sûrement si vous traversez la France par les petites routes, hein, ces rideaux de fer baissés, ces rues désertes dans un certain nombre de villes moyennes. Vous savez que le gouvernement, eh bien, veut redonner de l'attractivité, veut partir à la reconquête de centres-villes style Lunéville, Annonay, Decazeville, Fontenay-le-Comte. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, bien sûr, vous comprenez tout à fait. Oui, à qui la faute, justement? Alors, c'est vrai qu'on pointe souvent, eh bien, la grande distribution, mais est-elle la seule coupable? Il y a aussi probablement nos modes de vie, il y a l'accélération aussi du e-commerce, bien entendu. Alors, comment redonner de l'attractivité aux villes moyennes? Est-ce qu'on peut encore sauver le commerce en centre-ville? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, et puis on est très heureux ce soir de recevoir pour sa toute première à la radio et à la télé le nouveau PDG de Système U qui succède au très engagé, au très médiatique Serge Papin. C'est Dominique Schelcher, donc il a 47 ans, il préside maintenant les rênes de ce 5e distributeur français, 20 milliards de chiffre d'affaires avec quelques 1600 points de vente. Rodolphe Bonnat, c'est sûrement pas sa première à la télé et à la radio, puisque il vous a accompagné tout au long de la saison dans Innover pour le commerce avec Karine Vergniol. C'est le directeur général de CACOM, donc, eh bien, un groupe de communication. On entre notamment sur la distribution. Emmanuel Lechypre avec nous, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Olivier Razemont, tiens, profitez-en peut-être si vous partez en vacances, très intéressant. Comment la France a tué ses villes. Il a signé justement ce livre il y a quelques mois. Alors, on va revenir sur votre stratégie dans quelques instants. Donc, Dominique Schelcher à la tête de Système U. L'actu du jour, on en a parlé tout au long de l'après-midi, notamment dans Intégral Bourse avec Grégoire Favet, avec et puis Jean-Christophe Roisset dans le journal. Hein. C'est le secteur de la distribution qui a été ébranlé. Alors, on a Barclays, par exemple, qui prévoit une baisse des profits de Carrefour au premier semestre, en particulier en France. Hein, ce serait la plus faible performance de son histoire. On a vu le titre chuter de presque 5% aujourd'hui. On verra d'ailleurs, vous nous direz d'ailleurs comment Système U veut aller réagir peut-être à la vague Amazon. Et puis on a Casino aussi qui lance la semaine prochaine une vague de promotion sans précédent pour fêter ses 120 ans, pour simplifier des baisses à 120% pour le deuxième produit acheté. Il y a un article offert et en plus de ça, on va créditer une somme équivalente à 20%. Dominique Schelcher, est-ce que les distributeurs comme ça n'en profitent pas avant que la loi issue des états généraux de l'alimentation entre en vigueur quelque part, ne soit promulguée, loi qui prévoit une rétribution plus juste des fournisseurs? C'est une vraie crainte de votre profession?
Alors, une vraie crainte, non. Je pense que ce qui se passe là avec mon confrère, c'est une espèce peut-être de baroud d'honneur avant, le détail de la découverte des textes qui vont régir ce nouveau fonctionnement dans quelques semaines. On aura ça d'ici la rentrée. Donc, je pense que à l'automne, avant d'avoir ce détail, certains sortent leur dernière carte, on va dire. Hein. C'est un peu le jeu, là.
Baroud d'honneur, mais est-ce qu'il va être le seul casino ou d'autres vont lui emboîter le pas? Est-ce que avez vous-même aussi envie de lui emboîter le pas?
Alors, Système U partira pas dans cette voie-là. Nous, on a pris des engagements à la sortie des états généraux de l'alimentation qu'on va tenir, en fait. Hein. Donc, on s'est tous engagés, en fait, d'ailleurs mes confrères aussi, et je suis presque un peu parfois surpris par le comportement de certains qui signent à un moment des engagements et qui, de l'autre, tout de suite pratiquent d'autres méthodes.
Comment vous le qualifiez, ce comportement de casino?
Nous, on tient à tenir nos engagements. Et en tout cas, nous, on le fera. Oui, et on ne fera pas ce type d'opération-là.
Casino.
Ben écoutez, baroud d'honneur, c'est ce que je vous ai dit. Donc non, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on pratiquera comme ça.
Est-ce qu'on peut craindre une guerre des prix? Est-ce que la guerre des prix va reprendre de plus belle en cette moitié d'année 2018?
L'objectif des états généraux de l'alimentation, il était simple et il était clair. Et il y avait un consensus à la fin qui était de dire... rémunérons mieux la production agricole. On s'est engagé, on a signé là-dessus devant le gouvernement. Nous, on prend cette voie-là. On attend la promulgation de la loi avec impatience et on souhaite vraiment qu'un nouveau cycle démarre pour que la donne change et qu'elle profite enfin au mode agricole. Et donc, on ne s'inscrira pas dans ces pratiques-là.
Et certains ne jouent pas la règle du jeu, en tout cas ne jouent pas l'esprit des états généraux de l'alimentation. Vous le regrettez, bon, on l'a compris, ça vous énerve quelque part, mais comment résister quelque part quand on propose 120%? Enfin, les clients qui voient ça, ils se disent, ben, on va peut-être aller chez l'un et pas chez l'autre.
Hein. Oui, après, moi je dirais même que ça n'a plus de sens. Que pense le client à qui on propose de récupérer 120% sur le deuxième produit, etc. Il se dit, mais quelle est la valeur des produits? Donc à un moment, on est contre cette course à l'échalote extrême. Et voilà, vivement ce nouveau cycle qu'il démarre.
Rodolphe Bonas, ça rappelle quoi le pot de Nutella qui avait été bradé, où il y avait eu des bagarres dans certains hypermarchés? C'était qui?
C'était Intermarché.
Ça recommence là?
Alors, on va dire ça continue, hein. La promo est un élément décisif dans le commerce actuel. Il faut savoir que ça peut représenter entre 7 à 15% de chiffre d'affaires. Donc quand on parle de promotion, on parle de business, hein. Il faut être très clair, ça fait du trafic et ça fait du chiffre. Alors c'est vrai que c'est décalé, hein. Vous savez que les promotions sont négociées tous les ans et la date limite butoir, c'est fin février de l'année. Donc là, actuellement, on est encore sur le cycle qui va courir.
Je comprends.
Jusqu'à fin février 2019. 9. Et la loi, elle va rentrer en application uniquement à partir de mars. Donc, ce qu'expliquait Monsieur Schlecher juste à l'instant, en fait, on le verra en application, ces accords des États généraux, on le verra en application.
Que dans 6 mois.
Avant. On peut faire différemment.
De Michel Scheer.
Et il y aura même un temps de latence parce que je vous rappelle et vous le savez bien qu'en fait on a nous des délais de 6 mois entre pour préparer les opérations commerciales à venir. Donc même à partir du moment où on aura connaissance des textes, il y aura encore un délai de 6 mois pour la mise en œuvre concrète. Donc c'est pas.
Donc ce type d'opération, on va encore
continuer encore un petit peu.
Voilà, chacun va.
Et attention, souvenez-vous, la fin d'année est encore plus concurrentielle que le début. Donc on peut penser que ça va encore continuer.
Ce que vous nous dites, c'est que le pire est à venir.
Le pire, je sais pas, mais les bonnes affaires vont peut-être continuer.
Bon, très bien. Tiens, est-ce que cette baisse des prix, elle contribue à sa façon à l'assèchement des centres-villes? Olivier Razemont qui a planché sur comment la France a tué ses villes, Rodolphe Bonas, puis Emmanuel Le Chypre aussi. Allez-y,
alors,
Olivier Razemont.
En fait, j'imagine que c'est des choses qui se font tout le temps dans la grande distribution et ça continue et manifestement ça va encore continuer. Non, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut continuer à construire des nouvelles zones commerciales périphériques, quelle que soit la taille d'ailleurs, aux alentours des villes, ou est-ce qu'on arrête? Il ne s'agit pas de détruire celles qui existent, il ne s'agit pas de casser le marché qui existe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on continue à faire chaque année entre 3 et 4% par an en plus de superficie commerciale en périphérie des villes, alors que la consommation, la croissance, elle est à 2% et la consommation, elle reste à 1%. Donc le consommateur n'a pas besoin de ces nouvelles zones. Donc c'est ça la vraie question qui se pose. Et effectivement, ça contribue à dévitaliser les villes.
Il y a une concurrence au commerce. Soit clair, il y a vraiment un rapport de cause à effet entre l'aménagement de ces grandes surfaces à l'extérieur des villes et le dépeuplement dans les centres-villes.
C'est un des aspects, c'est pas le seul, hein. Mais évidemment, il y a une conséquence en matière de commerce, si on parle que de commerce. Et puis il y a tout le reste. Il y a les équipements qui quittent la ville, que le maire décide d'installer en périphérie. Il y a les habitants qui s'en vont. Il y a les transports publics qu'on utilise mal. On est en train de payer le prix de l'étalement urbain. Quand on le voit quand on va à La Châtre, dans l'Indre, sous-préfecture, 4000 habitants. On le voit à Coursan, dans l'Aude, petite ville à côté de Narbonne. On le voit à Saint-Brieuc, également, dans les villes un peu plus grandes. On le voit à Mulhouse, etc. On constate, on est en train de payer aujourd'hui le prix. Pendant 50 ans, on a étalé la ville de plus en plus loin, sans qu'il y ait une croissance de la population correspondante.
Est-ce que ça a été quantifié, justement, parce qu'on parle de toutes ces villes? Moi, j'en ai cité d'autres. Il y a aussi Angoulême, il y a Cognac, il y a Joigny. Enfin bon,
on peut en citer 300.
Raymond Depardon avait fait un très, très beau livre. Il y a 10 ans, il s'était posé avec un appareil photo comme ça et son camping-car dans des petites villes. Il n'était pas allé à Toulouse, Marseille, Bordeaux, il était que des petites villes. Déjà à l'époque, une dizaine d'années, c'était édifiant, ces magasins qui ferment. Ça a été quantifié, justement, les centres des villes moyennes qui se vident. À quelle hauteur?
C'est 11,7% de vacances commerciales, c'est de proportion de magasins vides. Dans les centres-villes de 350 villes en France, c'est Proco, c'est la Fédération des enseignes qui a calculé ça. Alors, ils se concentrent uniquement sur le centre-ville, c'est les quelques rues où leurs enseignes, en fait, c'est la Fédération des enseignes, donc acceptent de s'installer. Quand on regarde regarde à l'échelle de la ville et donc des quartiers de la ville, parce qu'on oublie souvent dans une ville, on se concentre sur le centre-ville et puis sur la périphérie, puis on oublie qu'entre les deux, il y a souvent des quartiers de ville qui sont faits dans le style de la région, qui sont également vivants, où il y a des habitants. Et quand on regarde également ces quartiers, on s'aperçoit qu'ils souffrent également. Donc, et ça augmente. C'est-à-dire, c'est pas nouveau, mais ça, on était à 8-9% il y a moins de 10 ans. Et aujourd'hui, on est à 11,7, 11,3 l'année d'avant.
À qui la faute? On parle de la grande distribution. On verra qu'il y a probablement d'autres responsables. Rodolphe Bonnaz, Emmanuel Lechypre, vous, de Michel Cher aussi, vous nous direz, eh bien, quelle responsabilité vous portez ou pas sur cette affaire. Rodolphe.
Alors, déjà, pour premier éclairage, il faut faire la différence entre les surfaces commerciales, c'est-à-dire la taille des magasins, si vous voulez, Fabrice, et surtout le nombre de magasins. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 20, d'accord, il y avait à peu près 1 500 000 boutiques en France. Aujourd'hui, on a quasiment divisé par deux ce nombre de boutiques. Donc ça veut dire qu'on a moins de magasins, mais que les magasins qu'on a sont plus grands. Donc déjà, c'est une première logique. Donc quand on a des magasins plus grands, il faut des endroits où on puisse les implanter. Souvent, les centres-villes ne sont pas forcément bien pensés pour ça.
Après, et se garer aussi.
Et se garer avec toutes les facilités qu'on y attache. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, et je pense qu'on est en train de toucher du doigt, et ce moment est important pour le commerce, c'est que pendant 30 ans, Fabrice, on a sanctuarisé les centres-villes, imaginant, parce que c'était aussi des propos électoralistes, imaginant qu'on pouvait revenir au commerce d'antan, retrouver des droguiers, dans la droguerie, la quincaillerie, le bottier, le chapelier, tout ce qu'on voulait. C'était des commerces qui n'existaient plus et que beaucoup d'hommes politiques ont souhaité préserver un peu comme dans un écrin. Mais mécaniquement, le commerce moderne, lui, il est allé s'installer en périphérie des villes. Et comme l'expliquait monsieur à l'instant, il est allé suivre les extensions de population qui existaient. Donc il faut pas s'étonner si aujourd'hui on vit un moment un peu difficile. Maintenant qu'on essaie de se raccrocher à cette histoire et faire re-rentrer le commerce, et surtout un commerce moderne en centre-ville, c'est un vrai enjeu et il faut le faire. Les commerçants, je pense, y sont favorables. Maintenant, il faut que les pouvoirs publics aussi y mettent les moyens.
Alors, Dominique Schelcher, le nouveau PDG Système U, et juste après, Emmanuel Lechypre.
Je pense, comme ça a été dit tout à l'heure, que
par Olivier Razemont, hein.
Par Olivier Razemont, que c'est tout à fait multifactoriel ce qui se passe au centre-ville. Tout d'abord, sociologiquement, il y a eu ce grand mouvement dans les années 60. Les gens se sont équipés de voitures, ont commencé à bouger vers la périphérie. Donc, c'est ça le cœur au départ. Ensuite, effectivement, la sanctuarisation. Quelque part, c'est vrai. On a limité la voiture ensuite en centre-ville.
Ouais,
et les circulations.
3-4 rues en général, et puis c'est tout.
Plus de rues piétonnes. Ouais. On a, au fur et à mesure du temps, parfois écarté les services publics du centre-ville. Donc il y a eu un mouvement. En même temps, des gens du monde rural venaient s'installer vers la ville, mais pas au centre-ville, mais plutôt vers la périphérie aussi, où tout un peu les services et la vie s'est retrouvé. Et il y a une dernière phase peut-être plus récente que personne n'a abordée, qui est quand même l'impact aussi du e-commerce, parce que quelles sont les boutiques qui sont vacantes aujourd'hui en centre-ville, dans les 11,7% dont on parlait? Ben, c'est beaucoup de textiles, beaucoup de chaussures, c'est aussi la banque aujourd'hui, les agences bancaires qui ferment. Et ça, c'est pas forcément la grande distribution. On prend notre part de responsabilité en partie, mais il y a beaucoup le e-commerce également qui a joué.
Alors, Emmanuel Lechypre.
Bah, c'est vrai que c'est multifactoriel, vous le dites, mais la grande tendance qu'on voit aujourd'hui, et qui n'est pas que française d'ailleurs, qui est une tendance que vous constatez dans le monde entier, c'est qu'il y a une tendance à la métropolisation qui est absolument irrépressible et qui est d'une puissance absolument phénoménale. Hein, quand vous regardez finalement dans tous les grands pays, prenez la France par exemple, les 3/4 de la croissance depuis 15 ans viennent des 15 plus grandes villes françaises. Parce que, contrairement à ce qu'on nous disait dans un monde où on rêvait qu'on travaillerait par Internet en tongs depuis sa ferme, etc., c'est absolument pas ça qui est en train de se produire. C'est qu'aujourd'hui, toutes les activités ont intérêt à s'agréger les unes à côté des autres. Et que vous avez une entreprise industrielle, vous avez intérêt à ce que la recherche soit à côté. Aujourd'hui, c'est simple. Dans presque toutes les grandes villes, les effets de l'agrégation sont supérieurs, les gains de l'agrégation sont supérieurs aux désagréments causés par les congestions, partout. Et donc, cette tendance-là, elle est assez inarrêtable. Donc, quand on parle des centres-villes, etc., moi, je pense que il y a beaucoup d'épiphénomènes dans ce qu'on dit. Toutes les histoires... alors là, je sais qu'Olivier sera pas d'accord avec moi, mais toutes les histoires de savoir s'il faut faire des centres-villes piétons, pas piétons, franchement, c'est pas le sujet. La réalité, c'est qu'effectivement, on a vu des tendances secondaires. Le fait que, par exemple, aujourd'hui, dans les centres-villes, l'inversion de priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un commerce de première importance en centre-ville. Vous n'avez plus que des commerces secondaires, accessoires. Vous n'avez plus, vous avez que de la bouffe à emporter, etc. Vous n'avez plus de charcutier, de boucher, de choses de première nécessité. Tout ça est parti assez loin finalement. Mais la réalité, c'est ça. C'est que la réalité, c'est que une ville dynamique, c'est des entreprises dynamiques qui créent des emplois. Parce que moi, je veux bien tout ce qu'on veut sur la distribution, mais dès l'instant où vous n'avez pas le pouvoir d'achat local pour dépenser, c'est pas ça qui dopera la ville. Et vos consommateurs, et là on rejoint là encore une tendance lourde qui est une tendance quasiment de cette économie globale et mondialisée, alors sur laquelle on est en train de revenir, qui est la divergence croissante entre les intérêts du consommateur et les intérêts du travailleur. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une proximité entre votre lieu de travail et votre lieu de consommation. Quand vous voyez les prix pratiqués par les petits commerçants en centre-ville et que vous voyez à côté les prix pratiqués par les zones commerciales en banlieue, comment vous voulez dissuader votre consommateur d'aller chez Kiabi dans une zone commerciale pourrie acheter des t-shirts à 2 €, alors que s'il va les acheter dans une boutique du centre-ville, ça lui coûtera 10 ou 15 euros. Voilà, c'est qu'il y a un moment où il faut remettre tout ça en cohérence.
Alors comment justement ?
Super pessimiste.
Alors Olivier Razemont.
Je suis extrêmement pessimiste. Si vous voulez sauver la France aujourd'hui, la réalité c'est quoi ? C'est que il faut privilégier massivement les investissements sur un axe Le Havre, Paris, Lyon, l'Europe du Sud. Voilà, et que la réalité. Je vous parle du calcul économique le plus glacial. Je vous parle du calcul économique le plus froid et le plus glacial. La réalité de l'aménagement du territoire aujourd'hui, c'est que si vous voulez dépenser de l'argent qui va créer des emplois et qui va faire de la croissance, vous le développez autour de cet axe-là. Je vais vous raconter une anecdote.
Oui.
C'est un économiste qui a beaucoup travaillé sur le sujet qui rencontre Nicolas Sarkozy, président de la République, et qui lui dit exactement ce que je viens de vous dire, qu'il faut etc. Et Sarkozy lui dit, ah, écoutez, c'est passionnant. Le problème, c'est que les trois quarts de mes électeurs sont
ailleurs,
au sud et au nord de cette zone que vous voulez développer, donc tous dans cette zone que vous voulez développer. Il y a cette problématique-là. Mais la réalité, c'est qu'il faut... Alors moi, je ne sais pas comment faire. Moi, je trouverais très bien qu'on ait plein de petites villes dynamiques, etc. Mais je pense qu'il faut y penser. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que je ne vois pas, honnêtement, aujourd'hui, et j'espère qu'Olivier a des éléments de réponse, je ne vois pas par quel bout aujourd'hui prendre le problème.
Ouais, alors, parce par que, le bout parce des que moi, je pense à tous ces habitants. Je par le bout quelques des villes tout à l'heure.
Justement.
Fontenay-le-Comte, Annonay, Cognac, on est loin de ça, de sa ligne.
Aujourd'hui, en Île-de-France, 50% de la population veut quitter la région pour aller ailleurs.
Ouais.
Et quand on demande aux gens qu'ils veulent, les marchés ont un succès phénoménal partout en France. À chaque fois qu'on fait un marché, les gens adorent les marchés. Les gens veulent effectivement une sorte de un peu le truc à l'ancienne, pas
forcément avec un peu.
Mais d'ailleurs,
une très bonne droguerie. Il y a une très bonne droguerie au Mans.
Olivier,
il y en avait une aussi encore à Nîmes qui fonctionne très bien.
Olivier, on va y revenir. Mais toutes les tendances que veulent développer les Franprix, les Monoprix, etc. C'est revenir exactement à tout ce qui se faisait il y a 50 ans.
Système U, ils sont très locaux.
Il y a eux et on peut leur faire confiance. Mais il y a aussi les commerçants indépendants, si vous permettez. Je sais que vous en avez aussi, mais simplement et aussi en plus de ça, la valeur ajoutée reste localement puisqu'ils emploient des gens, etc. Ils sont là, c'est leur sous, ça reste dans l'économie locale. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut pas négliger. Il y a quand même une montée en puissance qui est certes minoritaire, mais de gens qui veulent des circuits courts, des marchés, etc. Et moi je crois beaucoup aux citadins. À chaque fois que je vais dans des villes, je suis à Castres, à Aubenas, à Calais, je rencontre des gens qui ont pas envie de se laisser faire et qui ont envie de conserver leur ville. En plus, c'est des éléments de patrimoine. Où est-ce que les gens ont fêté hier soir la victoire de l'équipe de France de football? Et ben dans les villes, dans les centres-villes. Moi j'ai regardé. À Châtellerault, c'était en centre-ville. À La Roche-sur-Yon, c'était sur la place Napoléon. Ou si elle s'appelle Place Napoléon.
Ah, ça a plus d'allure que sur le parking.
Et ben oui. Donc il y a une attirance à Tours, etc. Donc c'est là qu'on veut. Et puis il y a une chose, je voudrais revenir sur cet aspect parce qu'on en parle à chaque fois, ça revient cette histoire de parking, se garer, etc. Vous l'avez très bien dit, Monsieur Chauchard, on a organisé la ville pour la voiture. C'est ça qu'on a fait avec l'étalement urbain. Et aujourd'hui, on voudrait organiser la ville existante de nouveau pour la voiture en remettant des parkings partout. Il y en a déjà plein. Moi, à chaque fois que je me balade dans une ville, alors souvent je me balade plutôt à pied ou en bus ou à vélo, mais je constate ça. Moi, l'image que j'ai en tête, c'est Montargis, 15 15 000 habitants dans le Loiret, et je vois des parkings gratuits, mais mal indiqués, ou alors il n'y a pas le nombre de places, ou alors ils sont là, mais par contre, on ne sait pas si c'est proche de la ville ou pas. Il y a des tas de gens qui habitent juste au-dessus. Si on leur fait des parkings partout avec juste des tout petits trottoirs parce qu'on a mis des voitures partout, ils n'auront pas envie de rester en ville parce que ça sera désagréable. Donc il faut des espaces. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout piétoniser. Personne ne propose ça. Mais simplement, il faut garantir un espace piéton. On puisse passer à pied et puis dire où on stocke. On regarde les villes quand même qui fonctionnent bien en Allemagne ou en Suisse ou aux Pays-Bas. On s'aperçoit qu'on a organisé ce rapport à la voiture. On nous a dit où est-ce qu'on les met ces bagnoles, parce que 95% du temps elles ne servent pas. On les met
et
où?
En Allemagne, aux Pays-Bas, les centres-villes des villes
ça
moyennes.
Ça va plutôt mieux.
Ils tiennent comment?
Ça va plutôt. Vous avez raison, c'est une tendance aussi européenne. Mais on constate. Je connaissais plutôt les grandes villes, mais je vais aussi dans les villes moyennes dans tous les pays d'Europe, et je constate en Italie, en Allemagne en particulier, parce qu'on a un rapport à la ville qui est plus ancien. En France, l'État est arrivé avant la ville, alors qu'en Italie, en Allemagne, la ville est arrivée avant l'État. Donc on a un rapport à la ville qui est beaucoup plus fort. Et finalement, et on a fait des zones à trafic limité, par exemple, dans le centre des villes italiennes, qui font que les villes sont dynamiques. Et on a encore tous ces commerces, notamment de bouche, qui fonctionnent très bien, y compris dans des villes de 30 000 habitants.
Alors, Demi-Michel Cher, vous êtes le nouveau PDG de Système U. Et c'est un sujet sur lequel vous voulez monter en puissance, quelque part vous impliquer sur ce sujet, le problème de la fracture territoriale, le rôle que peut jouer le commerce, donc vous, dans cette reconstruction. C'est vrai que vous avez toujours prétendu chez Système U, votre prédécesseur Serge Papin est venu à peu près ici une centaine de fois le clamer, hein, de dire voilà, on est un acteur du circuit court, un acteur rural, un acteur du territoire, un acteur des PME locales. Bon, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous avez à proposer justement?
Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que l'alimentaire revient, Emmanuel Lechypre l'a dit, l'alimentaire revient en cœur de ville et on refait ce qui existait dans le temps. Et on peut regarder l'exemple parisien qui est un peu peut-être le cas extrême, mais il y a énormément de retours de l'alimentaire avec des concepts extrêmement modernes chez nous, mais chez d'autres aussi, etc. C'est le premier élément de réponse. Et un deuxième élément de réponse dont personne n'a parlé, c'est quand même le plan du gouvernement, Action Cœur de Ville, qui a le mérite d'exister. Nous, on a été auditionnés...
C'est le plan Mézard, c'est celui-là?
Le plan Mézard.
Le plan Mézard qui prévoit donc 5 milliards d'euros donc sur le quinquennat pour... rénover, faire profiter donc à peu près 222 communes, hein, c'est ça, Rodolphe.
Alors c'est par contrat cadre avec
la réhabilitation d'un cinéma, la rénovation de logements sociaux, le
raménagement
du parvis de la gare, etc.
Une médiathèque, les halles.
Ça vous semble bien? Ça vous semble suffisant tout ça ou pas?
Ça me semble aller dans le bon sens. Ouais. Ça mobilise tous les acteurs sur le sujet. Ça voit l'ensemble des points dont on a finalement parlé, la réhabilitation, la dynamisation du commerce, l'habitat, enfin, etc. Et ils veulent aller relativement vite. Donc nous on le voit avec positivement et on va s'impliquer dans une partie de ces 222 villes où il y a du potentiel pour revenir, etc.
Rodolphe Bonas à la tête de Seacom qui conseille justement et bien toutes sortes de commerces.
J'essaie de donner des conseils, mais simplement pour éclairer sur un point. Premier élément, toutes les enseignes du commerce aujourd'hui ont des formats, ce qu'on appelle des dispositifs commerciaux adaptés au centre-ville sur des petites surfaces capables de faire fonctionner finalement avec, comme vous, CU Express et tous ces concepts qui sont déclinés, mais ça existe aussi chez les autres. Et donc, comme l'expliquait Emmanuel, Franprix, Monoprix, etc., Carrefour, tout le monde les a. Et donc, dans ces logiques-là, ils sont prêts à déployer des concepts à partir du moment où on est des habitants. C'est-à-dire que faut bien comprendre qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de clients. Je veux dire, ça, c'est la base du système. Donc, c'est tout un dispositif à inverser. Si on tire le rideau de fer dans un certain nombre de centres-villes, c'est qu'il n'y a plus d'habitants dans ces centres-villes. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on commence à voir émerger. Et peut-être, de manière un peu paradoxale, que c'est peut-être le digital qui va nous permettre de réhabiliter les centres-villes.
Comment ça?
Eh bien, pourquoi? Pourquoi? Parce que, à un moment, on commence à se rendre compte qu'on est capable de fabriquer des magasins qui ont besoin de petites surfaces pour arriver à présenter toute ou partie de l'offre et que le reste se fait en digital. Quand on entend que IKEA est en train d'essayer et va s'implanter en plein cœur de Paris sur un concept qui sera partiel, puisqu'un IKEA, vous savez, c'est minimum 7-8 000 mètres carrés.
Ça prend de la place, ouais.
Pas mettre 7-8 000 mètres carrés. Eh bien, on se rend compte qu'on peut commencer à le décliner. Quand un Leroy Merlin est en train de se poser la question de se dire, mais on peut faire des concepts marchands finalement sur des petites surfaces parce que le digital nous permet de continuer une expérience après, eh bien, peut-être que c'est là qu'il va falloir aller. Mais je dis ça pourquoi? Parce que pour essayer d'éclairer nos politiques, en leur disant ne repensez pas le commerce de demain en centre-ville comme vous l'avez pensé, vous et vous aimez quand vous étiez petit. Pensez-le comme il sera et qu'il devra être pour vos enfants et les petits-enfants de vos enfants. C'est très important.
Est-ce que le défi, justement, aussi, Rodolphe Bonas, c'est de ne pas reconstruire les centres-villes en intégrant tout ce qui est mutation sociale, quelque part, de recréer du lien, de créer de l'emploi, de la mixité, quelque part?
C'est indispensable. C'est-à-dire qu'un centre-ville dynamique, c'est vraiment une mixité. Hein. C'est à la fois de l'habitat, bien évidemment, mais c'est aussi du professionnel. Bien sûr, on a parlé aussi des services publics qui ont déserté les centres-villes. Hein. On parlait des commissariats, des hôpitaux, des
palais de justice, etc. Bien sûr.
Il va falloir faire revenir dans nos centres-villes. C'est pour ça qu'il va falloir aussi avoir une très grosse, pour toutes ces politiques, moi aussi, toutes ces villes. Hein. Moi, j'ai des Forbach, des Guéret, des Puy-en-Velay, hein. Chacun a ses villes.
Bien sûr.
Mais toutes ces villes-là vont devoir avoir un travail aussi sur le foncier. Puisque la clé même aussi d'un dispositif commercial, c'est le foncier.
C'est
si vous avez un
place.
Foncier inabordable, oui. Vous ne pouvez pas faire de commerce.
Alors, Olivier Rasmus.
Oui, alors le plan, il est intéressant d'abord parce qu'il existe. En effet, jusqu'à présent, il n'y avait pas de plan de ce type-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas justement que le commerce. C'est-à-dire que le gouvernement a compris qu'il y avait aussi cette affaire de logement. Et c'est vrai, quand on a 25% de logements vides, comme c'est le cas à Digne, ou 30% comme à Béziers, ben c'est pas génial. Ou même 15% à Albi. Hein, Albi, cathédrale, machin, UNESCO, tout ça. Mais 15% de logements vides dans le centre-ville avec une maire qui dit mais non, il n'y a pas de problème. Bon, donc ça c'est un enjeu. Et puis il y a comment ça va être mis en place. Moi j'ai rencontré le maire de Carpentras qui est plus maire d'ailleurs, mais il me disait en fait on va utiliser finalement cet argent parce que c'est pas ça, on va pas répartir les 5 milliards là de manière équitable. Hein, ça va dépendre de projets et on va l'utiliser pour faire un réhabiliter la médiathèque. On avait commencé à le faire, on va continuer à le faire, on va l'utiliser pour ça. Alors effectivement, elle est en centre-ville, donc c'est très bien. Moi, ce que j'ai envie de conseiller aux élus, c'est de prendre conseil auprès de la population, c'est de mettre le sujet sur la table, dire nous avons manifestement un problème, il faut en parler, réunissons-nous et tout le monde aura des idées, ils seront peut-être un peu mis en difficulté, mais si on le fait pas, on aura des projets qui viendront simplement des maires et qui mettront en place. Puis il y a une dernière chose, et là je suis désolé de dire ça face à un représentant de la grande distribution, mais il faut arrêter de construire des zones commerciales en périphérie, et si vous avez une ville qui continue à faire une nouvelle zone de plus, comme c'est le cas, le maire de La Châtre dans l'Indre, donc 4200 habitants, me disait bah oui, je vais faire une nouvelle zone. La ville ne cesse de perdre des habitants, le département en perd également depuis 15 ans. S'il fait ça, ça va être une catastrophe.
Dijon, il y a 3 ans, avait interdit toute extension de grandes surfaces commerciales dans sa ville pour protéger le petit commerce, je prends cet exemple.
Bourges, Belfort, Montbéliard, etc.
Voilà, ça, d'accord ou pas, de Michel Scher, et je pose la question à Emmanuel Le Chypre aussi.
Moi, il y a quelque chose qui nous tiendrait vraiment à cœur, c'est qu'on remette au cœur des autorisations administratives que nous devons obtenir pour ouvrir les surfaces, les critères économiques. Ces dernières années, ce qu'il a emporté dans ces dossiers, ce sont les critères administratifs et environnementaux. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, et il en faut, bien sûr, l'environnement, c'est important, et pour demain, mais les critères économiques ont pris du recul, et ça, ce n'est pas possible pour répondre à ce type de préoccupation.
Emmanuel, un mot, et puis on se retrouve juste après.
C'est toujours pareil. Moi, j'ai envie de vous dire que vous ne pouvez toujours dépenser que l'argent que vous avez, quoi qu'il arrive. Alors après, que vous ayez le dépenser en centre-ville, en zone périurbaine, etc. La mixité sociale, moi, j'y crois pas beaucoup. Ça n'a jamais vraiment existé. Ça existait quand les gens venaient se retrouver
c'est pas que de la
en centre-ville. Mais vous n'avez jamais eu les pauvres qui habitaient avec les riches.
Rodolphe, économique. Mais
ils habitaient économique. Loin,
non, mais vous avez, les riches et les pauvres, oui. Ils habitaient, ils ont jamais habité ensemble.
Emmanuel, Rodolphe, c'était la mixité économique. Voilà. À la fois des bureaux, à la fois des commerces, à la fois des logements.
Aussi
voilà.
Social, mais pas loin, c'est pas forcément la même rue. Mais si.
Alors ça n'empêchait qu'après, tout le monde se retrouvait effectivement dans le centre-ville. Et ça, effectivement, il y avait des points comme ça où ça convergeait. Encore une fois, moi je pars d'un raisonnement très simple, c'est que tous ces problèmes-là seront résolus le jour où vous aurez des entreprises qui viendront s'installer dans ces villes et qui créeront des emplois. Après, effectivement, on parle de sujets qui sont de second rang parce que ça relève effectivement du bien-être et c'est très important. Des choix commerciaux, c'est très important, etc. Mais encore une fois, là, tout ce plan du gouvernement, tout ça c'est très bien, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait redynamiser, revitaliser ces villes.
Bon, on va continuer dans un instant donc avec Olivier Rasmont qui signe Comment la France a tué ses villes, avec Rodolphe Bonas, avec Emmanuel Le Chypre et le tout nouveau PDG de Système U avec nous, c'est de Michel Scher, à tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, ce soir les décodeurs de l'écho autour du commerce en centre-ville. Oui, est-ce qu'on peut encore les sauver? Il y a le plan du gouvernement justement pour aller reconquérir ces centres dans les villes moyennes. On parle bien entendu. On est notamment avec le PDG, nouveau PDG de Système U, c'est Dominique Schelcher, qui dirigeait, ou qui dirige toujours d'ailleurs, son magasin de Fessenheim dans le Haut-Rhin, c'est ça?
Absolument.
Vous l'avez toujours, hein?
Bon, bien sûr, c'est la règle chez Système U.
Bon, très bien. Vous me disiez là juste pendant la pause, qu'est-ce qui s'est passé? Donc hier, là, jour de demi-finale, qu'est-ce qui s'est passé dans les magasins?
Ah ben, c'était la folie. Quand l'équipe de France joue, ça mobilise tout le monde. Plus 150% sur les pizzas, plus 80% sur la bière et plus 50% sur les sodas sur la journée d'hier.
Bon, on voit comment j'ai équilibré les soirs de match de foot. Hein.
C'est sûr.
Vous allez y avoir droit, à mon avis, lundi matin, à la question traditionnelle.
Je suis totalement prêt à répondre.
Emmanuel Le Chypre, l'effet Coupe du Monde. On n'en parle pas pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup ici sur BFM. On attend, évidemment.
Je peux vous dire que c'est le pire, c'est quand on perd. Parce qu'on se nourrit beaucoup plus mal les jours qui suivent, parce que quand vous êtes déprimé parce que vous avez perdu, vous mangez tout un tas de cochonneries, alors que si vous gagnez, eh ben vous mangez beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré. Vous voyez jusqu'où les économistes vont chercher les travaux pour mesurer l'impact de ces coupes du monde, etc.
Bon, juste encore un mot sur les, est-ce qu'on peut encore sauver les commerces en ville? On a accusé évidemment la grande distribution d'installer des zones commerciales à la sortie des villes, tout ça, dépeuplant les centres-villes. Il y a aussi évidemment le e-commerce, bien sûr, hein, l'émergence d'Amazon. Tiens, qu'est-ce qui détruit le plus d'emplois? Qu'est-ce qui détruit le plus de commerce? La grande distribution ou Amazon ou les autres, hein, je vais pas parler d'Amazon uniquement, enfin en tout cas le e-commerce. Oui. Olivier Razemont, auteur de Comment la France a tué ses villes.
Oui, il y a peu d'études qui sont faites là-dessus. En général, quand il y a un projet de zone commerciale, le distributeur et puis le maire disent on verra plus tard, vous inquiétez pas, ça va créer des emplois. Alors ça dépend, c'est 80, 300, 12 000, peu importe le chiffre. Et puis on fait peu d'études 10 ans après pour voir ce qui se passe. Et les seuls qui ont fait des études, alors il y a des opposants généralement aux hypermarchés qui en font. Et puis il y a un think tank, une association qui est à Lille, qui a fait l'étude pour entre 2008 et 2016 pour la métropole de Lille, le territoire de la métropole de Lille. Ils se sont aperçus que la grande distribution avait, donc c'est pas trimulier, hein, ils se sont aperçus que la grande distribution avait créé 600 emplois en 8 ans. Et puis ils se sont aperçus que les commerces de proximité en avaient perdu 4900.
Ah, oui.
Et donc, alors évidemment, tous les emplois détruits ne sont pas forcément liés à la création de zones commerciales. Alors, mais par contre, le constat, il est quand même là.
Alors, Rodolphe Bonas, CACOM.
Ils ont pris les chiffres disponibles,
connaître un peu le dynamisme, en tous les cas, de la zone, si on est en comparaison de concept à concept, c'est fort possible si on compare, par exemple, les métiers de bouche avec les métiers de bouche de centre-ville.
C'est pas seulement les métiers de bouche, c'est vraiment...
Ce que je veux vous dire, c'est que je peux vous garantir qu'en 8 ans, la zone de Lille, en termes de création, de concept,
de
magasin, c'est des milliers d'emplois.
Net, attention, net.
Non, mais moi, je vous parle de net. C'est-à-dire que je voudrais qu'on on va regarder l'étude. On va les appeler ensemble.
Tout à fait. Axe Culture
vous
à Lille.
Que chaque couverture de concept, je les suis. Et on parle pas de dizaines de concepts, mais de plusieurs dizaines de concepts.
Le constat que je fais, c'est qu'il y a peu d'études de ce type-là. Et très souvent, je me souviens d'une discussion avec le maire de Saint-Étienne. Je lui dis, ça va créer combien d'emplois nets ou ça va en détruire combien? Il dit, je sais pas, on verra dans 10 ans. Mais il aurait mieux fait de regarder ce qui s'était passé avec la zone d'avant, qui a été créée il y a 10 ans avec les mêmes promesses. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et c'est des sujets, en fait, là, on parle de quoi? De ville, de commerce, de déplacement, c'est des sujets qu'on pratique chacun d'entre nous tous les jours, et on a tendance, chacun d'entre nous, à généraliser. Et c'est comme ça absolument partout. Et donc, on a besoin d'objectiver cette situation. Il faut observer, il faut compter. C'est aussi la même chose avec les histoires de parking, c'est combien de clients sont venus en vrai, en voiture. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on imaginait. Donc, en fait, il y a toujours ce truc-là, ce prisme-là, qui consiste à généraliser sa situation personnelle.
Alors, Dominique Schelcher, nouveau PDG de Système U.
Moi, je pense que sur les chiffres qui sont cités là, il y a une bonne part qui est liée au non alimentaire, hein, c'est-à-dire, je le répète, textiles, chaussures, etc. Donc ça pèse. Et sur ce point-là précis, n'oublions pas qu'il y a de l'inéquité fiscale en France aujourd'hui, où les taxes ne sont pas les mêmes pour les commerçants physiques et pour les commerçants virtuels. Il n'y a pas de taxes sur les entrepôts. Nous, on plaide pour une égalité. Le gouvernement y est sensible. J'espère qu'il aboutira.
Tout à fait.
Et parfois même
totalement d'accord.
Européenne. Hein.
C'est-à-dire on se rejoint. Totalement d'accord.
Ça ne se gère pas exclusivement qu'au niveau de la France. Ça, c'est même au niveau européen.
Les grands enjeux de la distribution aujourd'hui en ce milieu d'année 2018 de Michel Schelcher, donc vous êtes associé U depuis 14 ans maintenant.
Oh, 20 ans.
20 ans, bon, pas encore mieux. Serge Papin, donc t'as pas voulu faire un troisième mandat, il est resté donc au pouvoir pendant 12 ans, donc à la tête de Système U, vous lui succédez, ça va être peut-être un petit peu compliqué ou pas, pour l'instant ça me semble bien parti, en tout cas votre aisance au micro. Ça va être quoi la griffe Schelcher à la tête de Système U?
d'agir dans la continuité des forces du système U et dans le renouveau. Puisque, voilà, on l'a dit depuis le début de cette discussion, le monde change et change vite, la donne change, donc il faut s'adapter sur le point du digital, du bio.
Alors justement, aujourd'hui, 20 milliards de chiffre d'affaires pour Système U, qui est le cinquième distributeur français. Objectif 25 milliards donc à échéance 2025, avec une part de marché qui passerait de 10 à 12,5. Comment et avec quelle recette? Qu'est-ce que vous allez faire alors?
Alors déjà, nous sommes présents essentiellement dans les zones rurales, dans les villes de moins de 5000 habitants, où il y a encore malgré tout un vrai dynamisme économique précisément. Et donc là, on travaille sur quoi? Sur les facteurs de dynamisme qui sont les produits locaux. 20% de l'approvisionnement de nos magasins se fait en proximité avec le maraîcher du coin, avec l'éleveur du coin. Par exemple, ça c'est un exemple, on développe très fortement le bio, qui est quelque chose qui progresse à deux chiffres aujourd'hui. Tout ce qui est innovation tire également la croissance, et bien sûr le e-commerce, bien que je crois plus que jamais au modèle du magasin physique sur l'alimentaire, qu'on s'entende bien. On est très actif sur le drive également. On a pris la troisième place du marché l'année dernière.
Ouais, n'allez pas si vite, justement. Quand on parle du digital dans la distribution, enfin, vous-même, vous revendiquez un goût très fort pour tout ce qui est nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous voulez inventer? Qu'est-ce qu'on peut encore inventer? Et est-ce qu'on peut résister à Amazon, clairement?
Bien sûr qu'on peut résister. Je vous rends attentif à un chiffre qui sort actuellement. La pénétration du drive alimentaire dans les foyers français commence à stagner à 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'alimentaire, les gens, nos clients, sont encore friands de la visite en point de vente, du contact avec un boucher, avec un boulanger, avec quelqu'un qui va apporter un conseil aux fruits et légumes, etc., par exemple. Donc c'est cette voie-là, cette piste-là qu'on va continuer à creuser plus que jamais.
Rodolphe Bonas.
Alors, simplement pour vous éclairer, là, on parle beaucoup d'Amazon, c'est vrai, dans le commerce au sens large, mais il faut bien faire la distinction entre le e-commerce non alimentaire et le e-commerce alimentaire.
Absolument.
Pourquoi? Parce que opérer du e-commerce dans le non-alimentaire, on va dire, c'est une accessibilité, j'allais pas dire donnée à tout le monde, parce que quand même, c'est quand même un vrai métier. En revanche, alimentaire, c'est un métier spécifique. Et Amazon l'a bien compris, parce qu'en rachetant Whole Foods aux États-Unis et en rachetant des magasins, il a essayé de s'imprégner de cette culture magasin. Et même aujourd'hui, tous les services alimentaires qu'il a mis en œuvre aujourd'hui stagne et ne donne pas une performance commerciale élevée. Et je vais vous expliquer un rapport de force. Un des plus gros marchés dans le commerce, c'est le bricolage. À peu près 20 à 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. L'alimentaire, c'est près de 230 milliards. Donc vous imaginez bien les enjeux commerciaux et l'enjeu même quasi vital pour Amazon dans sa croissance d'arriver à capitaliser sur ce marché. Mais Dieu sait si c'est compliqué. Dieu sait si c'est compliqué parce que les plateformes logistiques sont pas les mêmes, le sourcing n'est pas les mêmes, les négociations sont pas les mêmes, les rythmes sont pas les mêmes, la relation avec le client n'est pas la même. Tout est différent dans l'alimentaire. Et c'est bien ça ce qui est évoqué là. Et on voit très bien que même la perception du client, c'est différent.
Amazon qui s'est allié à Monoprix. Vous êtes déçu? Vous le regrettez? Parce que je sais que Serge Papin, il avait engagé précédemment donc des discussions avec Amazon de Michel Scheer.
C'est le grand jeu des alliances actuellement. Chacun observe et prend les partenariats qu'il peut prendre pour se renforcer.
Bah, Carrefour, justement, vous êtes allié Carrefour au détriment de Auchan. Pour en faire quoi, justement? C'est quoi les combats à mener avec Carrefour?
Les combats à mener précisément avec Carrefour, c'est le combat de l'achat, notamment sur les grandes marques internationales, sur les multinationales. Système U aujourd'hui a le chiffre d'affaires et a un chiffre d'affaires équivalent au résultat de certaines multinationales. Donc, on pèse pas grand-chose face à eux. Donc, on s'allie à Carrefour pour acheter dans de meilleures conditions face à ces industriels-là.
Des produits de grandes marques qui se vendent de moins en moins, j'ai l'impression aussi, non?
Alors, c'est un peu plus difficile sur ces produits, c'est vrai.
Ça se vend encore, mais
ça se vend encore, mais c'est un peu plus difficile quand même.
Bah oui, c'est pour ça.
Il y a une vraie prime aux produits de proximité locaux.
Et ça on le sent vraiment, Rodolphe Bonas, c'est pas juste du marketing de dire on produit local, on fait venir le maraîcher du coin, etc.
C'est une vraie tendance qui a été opérée au départ, je le rappelle, par la mise en œuvre des marques distributeurs. Oui, on oublie quand même où ces commerçants se sont imprégnés, ont pris connaissance d'un sourcing produit, et ensuite maintenant on est dans des logiques d'ultra localité. Et donc c'est vrai que ça vient énormément challenger les gros standards, les gros mastodontes du marché que sont les Nestlé, Ferrero et autres Unilever.
Mais qu'est-ce qui vous fait rire, Emmanuel Le Chip?
Non mais je suis désolé, je comprends pas. Non mais je sais pas pourquoi ce soir. je suis désespérant. Mais encore une fois, moi, j'attends de voir tout ça. Mais concrètement, le magasin aujourd'hui, la grande surface aujourd'hui de alimentaire, c'est pire qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualité du service est moins bonne. Par exemple, un truc idiot. Aujourd'hui, vous pouvez plus faire vos courses dans un hypermarché sans avoir des dizaines de types avec des énormes chariots qui remplissent les rayons pendant que vous essayez de passer. C'est certainement pas à eux qu'il faut demander des renseignements pour vous vendre la qualité des produits. Je veux dire, ça s'est dégravé. Donc, Rodolphe, ça fait des années qu'il vient nous vendre l'expérience, le machin,
elle existe,
le truc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les centres commerciaux, c'est les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que Rodolphe, il nous vend depuis des années. Vous allez voir, les centres commerciaux, les magasins, ça va être les lieux de l'expérience, etc. Mais que dalle, rien du tout. Les centres commerciaux, vous arrivez toujours avec votre bagnole dans un parking dont la plupart du temps, vous allez dans un magasin, vous arrivez, vous payez à la caisse, vous repartez avec votre sac, vous allez dans un autre magasin. C'était comme ça il y a 30 ans, c'est encore comme ça aujourd'hui. Et dans les hypermarchés, c'est pareil.
Évidemment, Rodolphe Bonas, c'est à quoi? Et Dominique Schellcher, si c'était
juste un point. Emmanuel, n'hésitez pas à faire vos courses sur le drive de n'importe quelle enseigne. C'est assez magique. Vous faites vos courses. Ça, c'était pas vrai il y a 20 ans. Vous arrivez, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, vous arrivez, vous commandez, etc., vos produits. D'accord? Vous arrivez sur le parking, on vous ouvre votre coffre, on vous met vos courses dans votre coffre. Et en plus, on vous a choisi le type de course que vous aimez, que vous préférez la fois d'avant. C'est-à-dire, si vous avez d'une baguette bien cuite, bah, vous l'avez bien cuite la fois d'avant.
De vous préciser la baguette.
Rodolphe, et ensuite Dominique.
Au niveau expérientiel, c'est vrai que dans l'alimentaire, il faut regarder plusieurs types de concepts. Il y a des très grands concepts, les hypermarchés, etc., qui ont quand même entrepris d'énormes investissements pour se réinventer. Je vous garantis, allez visiter
des
Carrefour Vignes en bière dans lesquels vous avez des zones expérientielles énormes. Vous pouvez tester tous les traiteurs que vous voulez à tous les niveaux. Et ensuite, après, tous les concepts de proximité que vous avez, que vous pouvez descendre, voir. Vous avez la vente en vrac, où vous avez les services de snacking à l'intérieur du magasin. Tout ça, ça n'existait pas il y a 20 ans.
Alors, tout ça, Dominique Schellcher.
Emmanuel, ne confondons pas les très grandes surfaces qui ont de vraies difficultés actuellement, qui est un créneau sur lequel nous ne sommes pas.
Classique.
Et du magasin de proximité, même le supermarché de proximité. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On y a mis des métiers. On fabrique notre pain. On fabrique notre pâtisserie. Ça, on le faisait pas autant qu'avant, il y a 10 ans. On fabrique nos préparations bouchères. Et ça, c'est ça que les clients attendent.
Même dans le vin que vous aimez. Allez visiter.
Dominique Schellcher, à quoi va ressembler un magasin comme les vôtres? À quoi il doit ressembler? Et ça va être quoi le boulot du directeur du magasin, du Système U, donc, à l'avenir? Il va faire quoi?
Bah déjà, nos patrons s'inscrivent sur leur territoire dans la durée. On parle de territoire depuis le début de cette émission. Donc, ils s'inscrivent dans la durée. Donc, ils sont pas là parachutés pour 2 ans. Premier point, parce qu'on est une coopérative. Deuxième point, plus que jamais, un lieu de vie et de proximité. Et dans toutes ces petites communes où on est, je peux vous dire que le samedi à 10h, on est le lieu de vie du coin, où on a rassemblé un certain nombre de services autour et où les gens, je crois, ont plaisir à venir faire leurs courses.
Le Système U de Fessenheim que vous dirigez, c'est le deuxième employeur après la fameuse centrale de Fessenheim. Juste, puisque vous êtes un fan de tout ce qui est nouvelle techno, l'intelligence artificielle dont on parle maintenant de plus en plus, ça va être quoi l'apport de l'intelligence artificielle dans un magasin comme Système U? Ça veut dire quoi? On dégage les caissières ou pas?
Mais surtout pas. L'intelligence artificielle, on va l'utiliser pour améliorer la qualité de nos commandes, par exemple. Bien sûr que...
La baguette bien cuite.
Calculer sur la base de plein de données les meilleures commandes possibles par rapport à la météo, ça, l'intelligence artificielle saura le faire. Par contre, le contact, on va le maintenir et plus que jamais. Le bon boucher, mais aussi la caissière. Saviez-vous qu'à l'étranger, il y a une chaîne écossaise qui a ouvert une file où il y a un panneau au-dessus qui dit... Dans cette file, vous pourrez parler avec plus longtemps avec votre hôtesse de caisse. L'avenir, c'est aussi ça. L'intelligence artificielle d'un côté et plus d'humains de l'autre.
Gâcher la fête, Emmanuel.
Moi j'aimerais un truc. Si Olivier pouvait nous donner des exemples de villes qui inventent des solutions différentes pour voir.
Heureusement, il y en a plein.
Et en fait, parce qu'on va bientôt se dire au revoir.
C'est en fait. Joinville-Haute-Marne,
oui.
3000 habitants, ils ont fait une sorte de foire des biens à vendre. Donc on peut venir comme ça deux fois par une fois par an, je crois, venir voir tout simplement les biens immobiliers à vendre et éventuellement les acheter et surtout les visiter, se la réapproprier en tant qu'individu, et surtout en tant qu'habitant de Joinville. Nevers qui taxent les fonds de commerce vides, alors pas seulement pour les taxer, mais simplement pour reprendre contact avec les propriétaires. Et puis une chose quand même importante, c'est que quand on aménage des zones, alors ça j'ai rencontré un consultant américain à Montréal il y a deux mois qui j'étais invité pour qui m'expliquait ça. Quand on aménage des zones à l'extérieur des villes, la collectivité, la puissance publique dépense énormément d'argent, reçoit finalement peu d'impôts à l'hectare, alors que quand on aménage des espaces publics pour les magasins de proximité en ville ou en centre-ville, et ben là par contre les impôts à l'hectare sont beaucoup plus importants et les emplois aussi.
Qu'est-ce que vous vouliez encore nous gâcher la fête?
Rien
du tout, ça va. Bon, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Voilà, il s'est calmé.
Comment
Rodolphe,
on va sauver les centres-villes, c'est le nom de son bouquin, donc moi je veux des réponses.
Rodolphe.
Simplement, repensons nos centres-villes, mais repensons-le avec le commerce de demain, pas le commerce d'hier. C'est la clé du système.
Vous allez travailler aussi sur l'environnement. Je regarde alors dans une autre dimension, c'est Starbucks qui va supprimer les pailles en plastique dans ses quelques 30 000 cafés dans le monde d'ici 2020. Ça vous inspire ce type d'exemple?
C'est le plan biodiversité de Nicolas Hulot la semaine dernière. Oui, on est déjà engagé sur notamment tous les emballages plastiques de nos produits à marque U. Là, on est déjà engagé et bien sûr, on s'interroge sur les pailles. On va enclencher le mouvement, je pense, dans pas longtemps parce que personne ne peut accepter qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans la mer.
Merci, ouais, merci à tous. Merci d'être venus ce soir. Donc, Demi-Michel Cher, donc première radio, première télé. C'était sur BFM Business dans les décodeurs de l'écho. Le nouveau PDG de Système U. Merci, Rodolphe Bonaz, donc directeur général de CACOM, un grand acteur qui conseille donc en communication, en stratégie, les acteurs de la distribution. Emmanuel Le Chypre, qui anime la librairie de l'écho. Il y aura un best-of tout l'été, j'espère, j'imagine.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Olivier Razemont, il y était venu justement avec Comment la France a tué ses villes. Merci à tous. C'est fini pour les décodeurs de l'écho, on revient très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.